Cap Cap, Jacques Lavergne, bonjour. Aujourd'hui, Cap Cap avec...
Laurence Cristante, de l'agence Aximo.
Bienvenue à toutes et à tous sur Esprit Occitanie. Il peut arriver que la principale difficulté pour écrire un éditorial soit le choix d'un sujet. Soit il n'en existe aucun qui retienne l'attention de l'auteur, soit il y en a tellement qu'il ne sait plus lequel faire sien. C'est ce dernier cas de figure qui caractérise la période actuelle. L'actualité tant internationale que nationale est tellement riche que l'on ne sait plus où donner du clavier. Le gouvernement espagnol balayé, essentiellement en raison de la corruption du parti au pouvoir et de sa calamiteuse gestion de la crise catalane, ou l'arrivée à la tête de l'Italie de l'extrême droite et des populistes, une alliance improbable et porteuse d'un programme économique qui paraît totalement incohérent, ou bien encore la déclaration de guerre économique de Trump au monde entier, dont à l'Europe, un président inconsistant, intellectuellement entouré par des équipes au niveau médiocre, et qui fait sans l'avoir conscience, mais de quoi ce garçon a-t-il vraiment conscience, à part satisfaire en apparence son électorat de petits blancs de la classe très moyenne, sans avoir conscience donc qu'il bouleverse le fragile équilibre du monde en faisant le jeu des Chinois qui n'en espéraient pas tant. Tous ces sujets nous touchent et affectent notre quotidien, mais il en est un qui nous impacte très directement et très pratiquement, c'est la loi alimentation adoptée en première lecture mercredi dernier à l'Assemblée nationale. Une loi dont le premier volet ne peut qu'être salué, s'il fonctionne, et qui vise à rééquilibrer les rapports de force entre la grande distribution et les agriculteurs, avec l'ambition que ces derniers puissent avoir enfin des revenus décents. Mais une loi dont le second volet fait preuve d'énormes faiblesses sur le plan environnemental, fait la part belle aux intérêts économiques des industries agroalimentaires qui n'en avaient nul besoin, et au final s'assoit allègrement sur les revendications des Français. Et au passage, cette loi renonce sans ambiguïté en les balayant plusieurs engagements pris par le candidat Macron durant sa campagne. Interdiction du glyphosate, interdiction de la publicité pour les aliments transformés cause d'obésité chez les enfants, l'interdiction des élevages hors sol des pousses pondeuses en cage, l'interdiction des pratiques brutales dans la production animale, telles la castration à vif ou le broyage des poussins vivants, la surveillance des pratiques des abattoirs par la vidéosurveillance, l'interdiction des épandages à proximité des lieux de vie et même, au mépris du droit européen, l'interdiction des épandages aériens de pesticides. La politique du gouvernement, bien soutenue en cela par un Parlement aux ordres que l'on aurait jadis qualifié de godillot, les plus anciens sauront ce que je veux dire, ne correspond en rien aux promesses du candidat ni aux déclarations du président il y a quelques mois. Manifestement, les industries agroalimentaires sont plus entendues que les attentes de la société française ou bien celles des scientifiques, lesquels, arguments techniques et factuels à l'appui, n'ont de cesse de dénoncer le modèle agricole dominant, responsable d'érosion de la biodiversité, de dégradation de l'environnement et de l'émergence de sérieux problèmes sanitaires, comme l'a écrit Le Monde dans son édito du week-end dernier. Mais le président n'en a cure, tout à ses certitudes aussi technocratiques que jupitériennes, et son ministre de l'Environnement, Hulot, est aux abonnés absents, tout occupé qu'il est à avaler des couleuvres de plus en plus grosses. Et nous, eh bien nous, comme d'habitude, on déguste. Cela étant dit, nous recevons ce jour sur Esprit Occitanie une invitée qui a eu deux carrières pour l'instant, parce que c'est une jeune femme, donc rien ne nous interdit de penser qu'il n'y aura pas une troisième, une quatrième, on la recevra à nouveau, on verra, qui va nous parler aujourd'hui de son monde professionnel et également d'une des innovations technologiques qu'elle utilise, qui fait sa singularité et sa performance. Bonjour Laurence Cristante.
Bonjour à vous, bonjour à tous. Tout d'abord, je souhaite vous remercier de m'avoir invité dans votre émission pour parler donc de l'immobilier, bien évidemment, de l'évolution du marché immobilier sur l'année 2018, de ses perspectives.
Et aussi... Et tout, elle va faire l'émission à ma place, hein, bientôt, là, je vais la couper. Parce qu'elle va faire... Alors, Exactement. Voilà. Bon, je n'avais pas dit ce que vous faisiez, tout le monde l'a compris. Vous avez défloré le sujet, mais il fallait bien que ça arrive. Donc, nous allons parler de l'immobilier. Vous êtes agent immobilier, nous reviendrons là-dessus, mais parlons d'abord du marché de l'immobilier de Toulouse, qui est quand même une ville qui est en pleine expansion. On reçoit entre 10 et 15 000 habitants par an actuellement. Donc,
c'est ça.
Pour vous, que ça dure, mais est-ce qu'on a les moyens de les loger ?
Mais d'abord, je vais faire un petit récapitulatif. Donc, selon l'indice INSEE paru en décembre 2017, Toulouse compte donc 472 000 habitants et 950 000 habitants avec son agglomération. Donc, nous, effectivement, nous accueillons chaque année, la région donc toulousaine accueille entre 13 000 et 15 000 personnes par an. Donc, ce qui fait un chiffre considérable. Toulouse, c'est la quatrième ville de France. C'est la ville qui gagne le plus d'habitants chaque année, ça il faut le savoir. Et tout cela, bien évidemment, a un fort impact sur l'immobilier.
Alors, est-ce qu'on les loge, ces habitants ?
Alors, on les loge parce que...
On les loge où et comment et dans quoi ?
On construit de plus en plus. Le neuf, vous n'avez qu'à regarder autour de vous, le neuf se développe énormément. Bon, il faut quand même savoir que au niveau des prix... Obligatoirement, qu'est-ce qui crée un marché ? C'est l'offre et la demande. Quand une demande est très importante, eh bien, les prix augmentent. Bon, c'est quand même à Bordeaux que les prix ont augmenté le plus durant l'année 2017.
Il y a peut-être une autre raison qui est extrinsèque à Bordeaux, non ? C'est l'arrivée du TGV et des Parisiens qui prennent Bordeaux pour la banlieue de Paris.
Exactement.
Dieu merci, moi qui râlais de ne pas avoir de TGV, je suis maintenant content de ne pas en avoir, ce qui nous permet de ne pas avoir en plus les Parisiens.
C'est ça, voilà, c'est cela. Bordeaux bénéficie d'une conjoncture particulière grâce effectivement à ce TGV.
Ne faites pas comme le TGV, ne nous parlez pas aussi vite, sinon on aura du mal à suivre. Donc, revenons, qu'est-ce qu'on fait à Toulouse ? On achète ou on loue majoritairement ?
Alors, à Toulouse, on achète et on loue, hein, mais on loue beaucoup. On loue beaucoup, pour quelles raisons ? La raison est simple, c'est qu'on a donc énormément de gens qui arrivent et la plupart du temps, quand ils arrivent, ils choisissent, avant d'acheter un bien, de le louer. Donc, ceci, c'est bien d'avoir des gens qui arrivent sur la région. Mais
les gens qui arrivent, est-ce qu'ils ont les moyens de se loger ? Moyens financiers ? Alors, louer peut-être, bien que bon, les locations, ce n'est pas non plus très très simple. Est-ce qu'ils ont suffisamment de moyens ? Oui, parce que c'est des gens qui vont travailler souvent peut-être pour Airbus ou
c'est
les satellites d'Airbus.
C'est ça.
Ce qui veut dire qu'il y a un niveau de vie qui est relativement correct.
Ben en fait, pourquoi les gens viennent dans la région ? Ben déjà parce que c'est une région qui est très dynamique. Alors il y a le soleil. Bon,
c'est
ce
pas
moment,
vrai, il n'y a pas de soleil. Ça fait des mois qu'il n'y a pas de soleil.
Mais bon, parce que les gens, ils ont du travail sur la région toulousaine et c'est la raison pour laquelle ils viennent. Donc, ce sont des gens qui ont un minimum de pouvoir d'achat et de pouvoir financier pour pouvoir se loger. Donc, là-dessus, c'est pas...
Est-ce que le nombre de logements est suffisant aujourd'hui ? Est-ce qu'on a suffisamment construit ?
Non. Monsieur Moudenc l'a dit lors des vœux sur la commune de Quinfonce-Grive. Non, chaque année, donc, il doit y avoir des logements qui doivent se construire pour pouvoir accueillir ce flot de personnes qui arrivent. Non, on a un parc encore qui est trop inférieur à la demande.
Qui c'est qui construit ?
Pardon ?
Qui c'est qui construit ?
Alors, les constructeurs, les principaux constructeurs, ce sont les promoteurs. D'accord. Il y a aussi des bailleurs sociaux qui construisent, hein, bien évidemment, puisque bon, il faut aussi pouvoir répondre à la demande au niveau du logement social, puisque bon, vous savez qu'il y a obligation, les promoteurs ont obligation de réserver une partie de leur parc immobilier au logement, aux bailleurs sociaux. Donc voilà, ce sont en règle générale des privés. Hein.
Ce qui est construit, ça vous paraît comment ? De qualité ou pas ?
Alors là, je ne suis pas là pour juger.
Quand on commence comme ça, je ne suis pas là pour dire du mal, mais j'en dirais bien, mais je ne peux pas trop en dire, c'est ça.
Non, si vous voulez cette réponse, on l'aura dans quelques années, quand on verra...
Que ça va s'écrouler.
Non, mais voilà, comment ce parc, il va vivre.
Est-ce que des quartiers comme Bordeaux-Rouge, vous dites professionnel de l'immobilier, c'est-à-dire que vous en voyez beaucoup, est-ce que des quartiers comme Bordeaux-Rouge, ça vous semble être quelque chose de satisfaisant ?
Non.
Pourquoi ?
Non, parce qu'il y a une population, une concentration de population, et forcément, il y a des soucis hein, aujourd'hui sur certains quartiers, et on a, nous, en tant qu'agents immobiliers, quelques problématiques pour pouvoir louer ces logements ou les vendre.
Pourtant, Bordeaux-Rouge, au départ, c'était quelque chose de... Enfin, c'est très mal fait, hein, ne serait-ce que quand on regarde les voies d'accès, pour y accéder, c'est compliqué. Quand vous êtes dedans, vous avez des autobus qui n'ont même pas le rayon de braquage. Bien sûr, il y a des gens qui pensent certainement à la municipalité, qui imaginent tout ça, mais ce sont les pires certainement que nous puissions avoir, parce que on ne peut pas circuler dans ces quartiers.
C'est dommage parce que au niveau construction, ben, ce sont des bâtiments qui ont tout le confort.
Oui, après, les bâtiments ne sont pas... À part qu'ils se ressemblent tous. Si vous allez voir quelqu'un à Bordeaux, vous avez intérêt de savoir exactement où il se situe, parce que vous pouvez tourner toute la soirée.
Non, c'est évident, c'est sûr que c'est pas... Mais bon, il faut bien loger les gens, hein. Ça, c'est autre chose, c'est une autre réalité. Bon, après...
Est-ce que la politique de la ville vous semble suffisante en termes de qualité et de quantité ?
Mais comme je vous disais, bon, les pouvoirs publics, on a quand même une mairie, enfin sur Toulouse, il y a une mairie qui est quand même dynamique, hein, en termes de... puisque vous pouvez vous rendre compte que dès qu'il y a des petites maisons toulousaines qui sont à la vente, eh ben, vous les voyez se démolir au fil des mois et se transformer en...
Est-ce que c'est une bonne chose ?
Comme je vous disais, il y a une demande. Donc, il faut bien loger les gens qui arrivent sur cette région. Donc, voilà.
Le promoteur immobilier a horreur du vide, c'est ça ?
C'est un peu ça. Bon, après, c'est comme ça. C'est la conjoncture. C'est cette région qui est hyper dynamique. Ben,
on ne s'en plaindra pas.
Voilà, avec l'aéronautique, avec aujourd'hui le secteur du bâtiment qui prend le relais et qui explose, hein, au niveau du bâtiment. Ils ont un gros souci pour trouver du personnel qualifié. Aujourd'hui, tellement que la demande est importante. Aujourd'hui, on se retrouve un petit peu comme en 2007, avant la crise. Donc, on est dans une conjoncture un peu particulière. Il y a une forte demande. Les prix, donc, augmentent.
Alors, les prix, c'est quoi ? Parlons en mètres carrés à l'achat. Il y a le neuf, il y a l'ancien. Vous travaillez beaucoup sur l'ancien ou peu ?
Ah oui, nous, moi, j'ai 5 agences immobilières qui sont spécialisées donc, sur l'Est toulousain. Donc, nos principaux clients, ce sont en fait des primo-accédants ou des gens qui souhaitent investir dans un autre bien, en fait, qui avaient un premier bien, mais pas assez grand, et qui décident donc d'en acheter un deuxième un peu plus conséquent pour accueillir leur famille. Donc, au niveau des clients, ce sont en priorité, ce sont des maisons que l'on vend, quoi, hein, forcément.
Donc, c'est de l'ancien ?
C'est de l'ancien, exactement.
Alors, ça veut dire quoi, l'ancien ? Parce que
l'ancien, c'est tout ce qui a été habité. Oui. Il suffit
avant.
Que...
Mais enfin, bon, quand on parle de l'ancien, souvent, c'est plutôt intramuros à Toulouse et
non,
des immeubles d'un certain âge.
Dans notre jargon, l'ancien, c'est tout ce qui n'est pas du neuf, c'est de l'ancien, en fait. Donc, une maison qui a été habitée ne serait-ce que pendant un an, c'est de l'ancien.
Oui, mais quand je parle ancien, hein, comprenez-moi, vous voyez ce que je veux dire. Non, je ne suis pas dans le jargon immobilier. Est-ce que le marché de l'ancien est aussi dynamique celui du neuf ?
Le marché de l'ancien se porte très bien aussi, bien évidemment, hein, puisque bon, la poussée démographique, eh ben, elle se répercute aussi en première couronne pour les familles qui souhaitent avoir un petit peu plus de tranquillité. Voilà, ça c'est sûr. Donc,
il faut des sous pour se loger, oui.
Alors, au niveau du...
Je vous avais posé une question. Mais
oui, au prix du mètre carré.
Vous êtes emballé, vous n'avez pas répondu, mais je n'oublie pas. On est sur combien au prix du mètre carré de neuf ?
Alors, au prix du mètre carré du neuf, ça dépend où, si vous parlez de Toulouse ou si vous parlez de la première couronne. Tout dépend, en fait, où on se situe.
Alors, jusqu'où va la première couronne ?
La première couronne va jusqu'à... Alors, dans mon secteur, la première couronne, elle va jusqu'à Drémil-Lafage. Quinfonds-Segrive est en première couronne. Drémil-Lafage, on est à cheval entre la première et la deuxième couronne. Voilà. Donc, pour pouvoir se loger dans ce secteur-là, ben, le prix moyen est aux alentours de... Dans la maison, au niveau du prix moyen dans la maison, c'est aux alentours de 3 000 euros.
Et maison individuelle.
Entre 2006 et 3 500 du mètre carré. Quoi,
et sur un appartement.
Et sur un appartement, alors sur un appartement, ça dépend si c'est du neuf ou de l'ancien. Dans le neuf, on est aux alentours de 3 500 euros parce que bon, il y a aussi la défiscalisation qui est possible. Donc ça aussi, ça permet à certains promoteurs d'augmenter un petit peu le prix du neuf, puisqu'ils savent que derrière, il peut y avoir un gain fiscal pour l'acquéreur, en fait. Voilà. Dans l'ancien, c'est un petit peu en dessous. On est aux alentours de 900 euros du mètre carré pour un appartement dans l'ancien. Voilà.
Ces gens qui se logent un peu à l'extérieur de Toulouse, première, deuxième couronne, est-ce qu'ils vous font part des difficultés qu'ils ont pour circuler ? Parce que c'est quand même pas très facile de rentrer dans Toulouse. Alors, on parle de Toulouse, mais c'est à peu près toutes les villes pareilles. Hein. Il ne faut pas s'illusionner.
La difficulté qu'ils ont pour circuler, en fait, je crois qu'aujourd'hui, sur Toulouse, tout le monde a de la difficulté pour circuler. Donc, quand c'est des gens qui arrivent de la région parisienne, eh bien, ils sont un peu résignés, je vais dire ça comme ça.
Ils en font toujours moins que dans la région parisienne.
Voilà, mais aujourd'hui, c'est un gros souci, effectivement.
Ça veut dire que le réseau routier n'a pas suivi ?
Exactement. Et... Exactement, cette fameuse déviation de rocade n'a jamais eu lieu. Et aujourd'hui, on a un trafic sur notre périphérique intérieur qui est terrible et qui paralyse en permanence donc, le flux de véhicules.
Est-ce que les gens, quand ils font leur choix, ils vous en parlent de ça ? Est-ce que
non.
Ce n'est pas un critère pour eux ?
Non. Le premier critère, ça va être de trouver un endroit calme, en fait, hein, de trouver un endroit paisible où il y a de la dynamique associative, ça c'est important. On accueille beaucoup de familles, hein, donc les arrivants, donc ils vont plutôt être intéressés par ce genre de choses. De toute façon, la circulation, ils savent qu'il y a un souci. Et notre secteur est ne va pas aller en s'améliorant, hein, au niveau de la circulation, puisque bon, on a la clinique.
Ni l'est, ni l'ouest, ni les autres.
Alors, le secteur est, si vous voulez, c'est particulier. Pour quelle raison ? Parce que on accueille la clinique Capio. La clinique Capio, je ne sais pas si vous en avez entendu parler. C'est en fait la clinique du Parc et la clinique Saint-Jean du Languedoc qui fusionnent et qui créent donc un bâtiment sur 33 000 mètres carrés, donc à Quinfonce-Grive. Ça va être donc la plus grosse clinique ambulatoire de France.
Et comme ils ont à côté la clinique de l'Union, qui est pour l'instant la plus importante, qui appartient au groupe Ramsay, qui est donc le grand concurrent de Capio, ça fait quand même un secteur chargé.
Non, parce que je partage pas tout à fait votre avis, parce que bon, on n'est pas sur les mêmes secteurs géographiques quand même. L'Union et Quinfonce-Grive, vous avez tout Balma. Enfin, il y a quand même il y a vraiment matière, hein, honnêtement. Hein,
on peut être malade, alors ça c'est déjà rassurant. Donc, on sera soigné.
Non, mais la problématique, c'est que cette arrivée de la clinique va encore plus paralyser le flux. De circulation, voilà. Mais après, c'est très très bon pour le secteur géographique.
Donc vous êtes une femme heureuse. La ville est en plein boom, l'immobilier fonctionne complètement. Vous vous gavez, si je puis dire.
Non.
Vous me raconterez après comment ça se passe.
Non, ça se passe plus du tout comme ça.
Ne faites pas.
Je n'ai jamais connu cette époque-là, d'ailleurs.
Vous trouvez normal qu'on demande à des gens qui veulent louer, qu'on leur demande des garanties, des cautions, des... Les propriétaires sont un peu exigeants, non ?
Est-ce que vous êtes propriétaire, monsieur Lavergne ?
Oh, bon, je suis propriétaire de certaines choses, oui.
Bon, est-ce que vous trouvez normal, quand vous êtes propriétaire, qu'un locataire ne paye pas son loyer ?
Bon, vous déplacez un peu le problème, parce qu'il y a quand même des gens qui sont tout à fait solvables et à qui on va demander des garanties, des cautions, les parents, les bulletins de salaire, la déclaration de revenus des trois dernières années. Ça fait beaucoup, non ?
Si vous voulez, il y a tout ce qui est réglementation, d'accord ? Donc, où notre travail de gestionnaire doit être fait le mieux possible et en respectant la réglementation. Donc, le locataire, il doit aujourd'hui donc pouvoir avoir au minimum deux à trois mois, selon la loi Allure, c'est 2 mois. D'accord. Donc, il doit avoir une capacité d'endettement qui ne doit pas être supérieure, en fait, à 30 et quelques pourcents. Bon, ça, c'est comme ça, c'est la loi. C'est pas moi qui définis la réglementation.
Vous rencontrez dans votre métier, de la part de propriétaires, vous rencontrez du racisme, les Noirs, les Arabes, on les écarte ou on les écarte pas ?
On peut avoir certaines demandes de certains propriétaires, mais je peux vous assurer que bon, on n'en tient absolument pas compte. Les personnes...
Le propriétaire, c'est lui quand même qui signe le bail.
Non, monsieur, parce que nous sommes gestionnaires, c'est nous qui représentons en tant que gestionnaire, puisque j'ai un service de gestion locative, le propriétaire. Donc c'est nous qui signons le bail. Donc c'est absolument pas.
Même si le propriétaire vous dit je veux pas de noir, je veux
mais
pas d'arabe.
C'est pas possible, quoi, en fait. Hein. Je veux dire, nous, ce qu'on va regarder.
Que ce ne devrait pas être possible, j'en conviens. Que ce ne soit pas possible, on en a des exemples.
Oui, on en a.
Pas chez vous, non, mais parce que si vous êtes là, c'est parce que vous êtes la meilleure, vous le savez. Mais quand même, convenez que c'est un réflexe assez partagé par beaucoup de possédants.
Le premier critère, ça va être la solvabilité. Voilà, c'est ce qu'on va regarder. Ensuite, ben, le profil et le stéréotype de la personne. Non, ça, c'est, de toute façon, c'est puni par la loi, je veux dire.
Oh, la loi punit tellement de choses. Et la loi, malheureusement, n'est pas toujours appliquée. C'est pas... Vous pratiquez l'immobilier d'entreprise un peu ?
Non.
Pas ? Non, pas du tout.
Ce n'est pas ma spécialité.
Il y a des spécialités là ?
Oui, oui. Tout à fait.
C'est uniquement, enfin uniquement, et c'est déjà beaucoup, c'est le particulier.
Voilà, moi, c'est, ça se résume à la location, la gestion locative de biens et la transaction immobilière, en fait. Voilà.
Un beau métier dont on va reparler, mais avant, on va faire une première pause musicale pour que vous puissiez vous reposer un peu. Qu'est-ce que vous avez choisi ? Parce que c'est vous qui l'avez choisi, ce premier morceau.
Alors, moi, j'ai choisi donc une chanson de Julien Doré. Julien Doré, c'est un chanteur que...
Oh, tout le monde connaît aujourd'hui, voilà, au moins deux noms.
Que j'affectionne particulièrement, que je suis allée voir d'ailleurs à la Halle au Grain il y a une quinzaine de jours.
Et donc, il vous a séduite.
Et c'était un concert acoustique, donc il n'avait absolument pas d'orchestre ni de chœur.
Donc, il chantait a cappella
Oui, juste avec son piano et sa guitare. Et c'était à la Halle au Grain, c'était vraiment
très
sympa.
Il joue du piano et de la guitare en même temps ?
Non, pas en même temps. L'un après l'autre. Voilà, donc j'ai choisi Porto Vecchio parce que c'est une chanson qui me rappelle les vacances.
La lumière est divine sur le Porto Vecchio. Les nuages et le spleen. Où est ma peau? Je ne pars pas, je nage dans le murmure des vagues. Mais j'ai laissé ton nom et mon cœur sur la plage.
Voilà, et bien nous retrouvant après Julien Doré, Porto Vecchio, qui rappelait ses souvenirs de très chauds, de vacances à Laurence Cristante, notre invitée. Nous la retrouvons toujours pour parler d'immobilier. Et alors, on a parlé du marché, mais donc vous êtes agent immobilier. Qu'est-ce que c'est un agent immobilier? Combien on devient agent immobilier? N'importe qui peut le faire?
Alors, comment on devient agent immobilier?
Il faut diplôme. Maintenant, il faut un diplôme pour tout, même
alors,
pour être coiffeur.
Diplôme, ben, il faut... Alors, pour être agent immobilier, il faut avoir au minimum un BTS profession immobilière, d'accord? Ou alors une licence de gestion locative, voilà, pour faire de la gestion également. Voilà. Après, pour être agent commercial dans l'immobilier, vous n'avez pas besoin de diplôme. Donc, il y a beaucoup d'agents commerciaux qui travaillent dans des agences immobilières, mais qui n'ont pas spécialement de...
Et qui travaillent sous la couverture du dirigeant.
C'est ça, exactement.
Donc, il y a quand même quelques diplômes, ce qui ne veut plus dire grand-chose, mais tout le monde a des diplômes. Les gens qui vont vers cette profession, ils y vont par envie ou par hasard, par nécessité?
Ben en fait, on peut trouver un peu de tous les profils, on va dire.
Ce sont des métiers jeunes?
Pas forcément, non. C'est pas forcément...
Alors, par vous, bien sûr, qui êtes... bambine encore dans le métier, mais on voit quand même beaucoup.
Ans, on est jeune.
Oh,
donc...
ben non, mais vous êtes pour moi, vous êtes très jeune. On voit beaucoup de jeunes qui font visiter. C'est pas des vieux qui font visiter.
Non, c'est possible ça. Hein. Mais ceci dit, moi j'ai pu remarquer. Alors là, moi je vois, j'ai une équipe plutôt de dames chez moi, pas du tout. C'est pas parce que j'aime pas les hommes, hein, c'est pas ça. C'est
que bon. Nous n'en sommes pas encore là au niveau de l'interview, je vous rassure. On verra ça à la fin.
Non mais c'est bon. En fait, j'ai beaucoup de dames de la quarantaine, hein, en fait, oui, 40, 50 ans. Bon, ce sont des personnes qui sont assez disponibles. Ça, il faut voir ça aussi, hein, puisque bon, c'est un métier qui demande quand même beaucoup de temps et d'être disponible souvent le soir, entre midi et deux. Donc, quand on a des enfants, c'est pas très simple. Voilà. Alors, les jeunes.
Donc, vous n'employez que des ménopausées, c'est ça?
Non, pas toutes. Elles vont être contentes. Quand elles vont m'entendre.
Non,
mais ce sont des personnes qui, pour la plupart d'entre elles, sont relativement disponibles parce que c'est un métier qui est prenant. Alors, le métier d'agent immobilier, il faut savoir que agent immobilier, c'est une profession qui est réglementée, d'accord, qui est réglementée par la loi Auguet. Donc, ça veut dire qu'on ne peut pas faire n'importe quoi. Hein, ça, c'est très important.
Sur le papier, oui.
Hein, sur le papier. Et alors, c'est vrai que ces dernières années, la loi Allure a permis quand même de mettre la profession d'agent immobilier dans un cadre pour essayer d'éviter justement toutes les dérives qu'on a pu constater.
De toute façon, donc vous ne travaillez que sur mandat. Vous avez un mandat soit de location, soit de vente. Vous avez un registre des mandats, j'imagine,
tout le monde.
Et donc tout ça est quand même relativement enserré dans des textes, des lois qui ne permettent pas a priori de faire trop n'importe quoi.
Logiquement, voilà, c'est une profession qui est encadrée et on doit répondre et on doit respecter ce cadre-là. Après, bon, il y a certains confrères qui ne le respectent pas.
Vous êtes nombreux sur Toulouse, la région, c'est une profession?
Oui, c'est une profession. Alors, le nombre exact d'agents immobiliers, je ne l'ai pas en tête, mais c'est là, en plus, bon, comme le marché se porte très bien, on voit fleurir des agences un petit peu partout, pensant que l'immobilier, c'est quelque chose de très facile. Parce qu'on a un petit peu, si vous voulez, dans l'idée, Stéphane Plaza à la télé, enfin bon voilà, parce que c'est un métier en fait que tout le monde peut faire. Or, ce n'est pas du tout le cas.
Alors le métier, il y a plusieurs facettes dans le métier. Le métier, c'est déjà de prendre des mandats et de vendre, donc ça veut dire faire visiter, ça veut dire... Vous avez une activité de conseil auprès du propriétaire, de celui qui vous donne mandat?
De plus en plus, enfin on a une activité de conseil, mais le conseil, les clients en ont besoin de plus en plus, parce que si vous voulez, avec les nouvelles réglementations, quand vous vendez une maison, vous avez besoin de tout un tas de diagnostics, tout un tas d'informations, on doit vous informer de tout cela.
C'est pas trop tout ça, non? Les termites, les trucs, les choses, les machins, l'amiante.
C'est de plus en plus complexe aujourd'hui pour un propriétaire de vendre son bien. Hein.
Qui c'est qui fait le prix?
Ce sont les agences qui font des estimations. Et là, c'est pareil.
Est-ce que le propriétaire les accepte, vos estimations? Ou est-ce que l'agence n'est pas tentée de monter un peu le prix pour faire un coup, pour parier un peu, après tout?
Non, on essaye de...
Vous êtes payé au pourcentage?
On essaye de travailler de manière... Alors, moi, personnellement, d'accord, dans mes agences, on essaye de travailler de manière sérieuse. Parce que surévaluer un bien, ça ne sert strictement à rien.
On le garde sur les bras.
Exactement. Donc, ce n'est pas rendre service au client, je veux dire. Donc, la problématique, c'est qu'avec toutes ces agences qui fleurissent, aujourd'hui, actuellement, on se retrouve dans un marché...
C'est sûr, s'il n'y avait pas la concurrence, on serait plus à l'aise.
La concurrence, elle surévalue. Non, mais il y a beaucoup de concurrence.
Ça veut dire qu'il y a de la surenchère.
Qui surévalue le bien pour prendre le mandat. Voilà. Et puis après, ils prennent un mandat exclusif. Donc, ils ficellent le client pendant 3 mois. Mais le souci, c'est qu'ils ne vendent pas le bien. Quoi. Donc, au final, c'est de la perte de temps pour tout le monde. Voilà. Donc, ça, c'est vrai que c'est quand même un souci.
Il y a beaucoup des réseaux de mandataires aussi maintenant. Qu'est-ce que c'est tout ça? Il y a des gens, n'importe qui aujourd'hui peut faire de l'immobilier.
C'est ce que je vous disais.
Il suffit qu'ils ramènent ou des mandats ou des gens intéressés à l'achat ou à la vente et ils touchent une commission.
Alors non, c'est pas si simple que ça, parce que prendre un mandat, ça veut pas dire le vendre, d'accord? Prendre un mandat, déjà, il faut prendre un mandat au bon prix. Ensuite, il faut avoir le client pour ça. Il faut donc commercialiser le bien, il faut le faire visiter, trouver, et puis ensuite il faut arriver à décrocher une offre, comme je vous disais. Donc c'est pas parce que vous prenez un mandat que vous êtes payé. Vous êtes payé uniquement
au résultat.
Voilà, non, le jour de l'acte authentique, en fait, votre rémunération.
Donc, il faut qu'il y ait un résultat à votre prestation.
Exactement, c'est ça. Voilà.
Vous êtes des vendeurs, finalement. Vous allez magnifier un bien, que ce soit pour le louer ou pour l'acheter.
Alors, en fait, notre métier consiste à mettre en relation des personnes, des acquéreurs et des vendeurs, de manière à ce qu'ils puissent concrétiser leur projet. Voilà, on n'est pas vendeur parce qu'on ne vend pas la maison.
Non, mais
les met en relation.
Oui, ça va au-delà de la mise en relation, parce que souvent, le propriétaire, on ne le voit pas. Vous allez quand même un peu expliquer combien l'appartement, la maison est belle et sexy et tous les avantages qu'elle a. Ça s'appelle, c'est plus que de l'intermédiation, là.
Bien évidemment. Après, on a chacun à ses techniques et à sa petite cuisine pour mettre effectivement le bien que l'on nous a confié à la vente en valeur. Voilà. Et on parlera donc de mon nouveau concept.
Alors, l'administrateur de biens, ça n'a rien à voir avec vous? Les syndics non plus? Vous ne faites pas ce métier?
Moi, je fais de l'administration de biens, oui, par le biais de la gestion locative, en fait, des biens que je gère. Je ne fais pas de syndic par souhait, parce que bon, c'est particulier.
C'est un métier qui doit être extrêmement dur pour les nerfs.
Tout à fait.
Gérer des assemblées de copropriétaires qui ne pensent qu'à vous trucider, c'est sûr, ça doit être un peu compliqué.
Ça. Voilà, vous avez tout compris. Donc, je préfère ne pas faire de syndic. Voilà. Donc, je gère des biens de manière, très proche des propriétaires. Ça, c'est très très important aussi. Je connais tous les propriétaires en fait, et on fait de la gestion de proximité grâce donc à nos 5 implantations.
Alors, vous avez 5 implantations, vous venez de le dire. Vous pouvez nous les situer?
Oui, alors donc, j'ai une agence à Quinfonce-Grive, Saint-Aurès de Gameville, donc en première couronne, ensuite Drémil-Lafage, deuxième couronne, et troisième couronne, donc Caraman et Lavore.
Voilà. Ça fait que Lavore, c'est un peu loin déjà, non?
Oui, mais bon, on est sur la...
Il y a le charme du Jacquemart, vous connaissez le Jacquemart, j'imagine.
Lavore est une ville très dynamique, oui, tout à fait, Jacquemart, oui, très dynamique, et c'est une ville où les prix sont encore très attractifs.
Donc, il faut se précipiter à Lavore, mais c'est vrai que c'est sympathique là-bas.
C'est pas loin.
C'est un peu loin, mais on a quand même l'autoroute pour rentrer. Donc l'autoroute
40
d'Albi.
Minutes. Mmh. Donc c'est pas très loin, 40 minutes, je veux dire. Et ça permet d'avoir.
Pour un Parisien, non.
Voilà, c'est ça.
Je les ai eu faits en venant de Blagnac aussi, qui est un endroit absolument infernal.
Oui, là, vous les avez faits pour faire Blagnac, pas beaucoup de kilomètres.
Pour le centre-ville, mais voilà. Vous mettiez 40 minutes facilement, ouais. Et vous arriviez avec une tension qui avait terriblement augmenté, c'est jamais très bon. Combien vous avez de personnes?
30 personnes.
Oui, là, à ce niveau-là, c'est plus le bricolage de quartier, vous êtes chef d'entreprise.
Voilà, donc alors il y a un mixte entre des agents commerciaux indépendants et des salariés qui sont aussi référents et piliers de l'entreprise. Je dois forcément et obligatoirement m'appuyer sur des gens solides pour pouvoir m'aider dans la gestion.
Vous avez un volume de, je ne sais pas comment vous calculez, c'est un nombre de dossiers, en termes de vente, de location, ça représente quoi? Aucune idée de ce que ça peut. Oui.
Oui, ben, l'année dernière, on a dû faire aux alentours de 150 ventes. Voilà.
Oui, c'est quand même important. Oui, et les locations ?
Et les locations, on a un portefeuille de 200 lots de gestion locative. Donc l'année dernière, on a dû faire à peu près la même chose en termes de...
Et on voit la démarche inverse, c'est-à-dire quelqu'un qui cherche une location, qui vient vous voir en disant ben, « trouvez-moi ». Non pas ce que vous avez, parce que ça ne m'a pas intéressé ce que vous me présentez, mais voilà quels sont mes critères, trouvez-moi quelque chose. Ça existe, ça aussi ?
Ah ben oui, bien sûr.
Et vous le faites ?
Ah ben oui, 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 bien sûr.
Donc vous sortez de votre cheptel, si je puis dire, on ne va pas les appeler comme ça, mais vous sortez de vos clients pour aller chercher un produit particulier, que ce soit la vente ou la location. Tout à fait.
On se transforme en chasseur immobilier, en fait, hein, donc pour essayer de trouver le bonheur aux clients. Bon, ceci dit, avec mes 5 agences, j'ai quand même la chance d'être bien implantée sur le secteur et d'avoir à peu près 80% des produits qu'il y a à la vente, je les ai. Donc, j'ai 450 produits à la vente, ça représente quand même un sacré volume.
Ça veut dire que, vous parlez toujours de secteur, ça veut dire que vous limitez sur ce secteur géographique et vous n'allez pas aller 10 km plus loin, non ?
Alors, 10 km, déjà, j'ai un bon secteur quand même. Oui. Hein, secteur tout l'Est toulousain, ça représente quand même un bon rayonnage, quoi, un bon rayon quand même.
Toutes ces franchises qu'on voit, on va pas leur faire de pub ni de citer les noms. Est-ce que ce sont des concurrents dangereux ? Sérieux, pas en termes, bien évidemment, de sérieux professionnels, mais qui sont vraiment des gens qui prennent des parts de marché importantes ?
Alors, bon, les concurrents, que
c'est
ce soit...
C'est toujours les mêmes, Orpi, Foncia, on les connaît, oui. Hein, Century 21, etc.
Alors, moi, je vais vous dire, que ce soit des franchisés, des non-franchisés, moi, je ne suis pas franchisée, hein, ce sont mes agences, ça, c'est important aussi. Donc, je suis la seule agence aussi indépendante de non-franchisés. Hein, ça, c'est vrai que, bon, je le précise. Alors, en fait, que ce soit des agences de franchisés ou non-franchisés, ce qui importe, c'est le dynamisme des personnes qui sont dans ces agences-là. Voilà, c'est ça qui compte, c'est pas autre chose. On peut voir des orpies qui sont très incisifs. Dans certains secteurs et d'autres beaucoup moins. En fait, tout va dépendre de la politique commerciale de l'agence et du dynamisme des personnes qui sont dans la structure.
Quels sont vos rapports avec les propriétaires ? Comment ils sont les propriétaires ? Il y a de tout le monde, j'imagine, mais est-ce qu'il y a des typologies particulières ?
Les propriétaires qui nous louent des biens ou les propriétaires
qui vous donnent des biens loués ?
Qui nous donnent des... Ah, parce que là, il y a la location et la vente. Ouais. Alors, c'est vrai que la location, ça permet... ces propriétaires-là, ben, on les coucoune. Puisque bon, on les connaît, on les fidélise.
C'est le fonds de commerce, ça.
Ça, c'est notre fonds de commerce, exactement.
Parce qu'une fois qu'on a fait une vente, on l'a faite, a priori, il n'y en a plus d'autres.
Ben, malheureusement, souvent, il y en a quand même d'autres parce qu'il y a beaucoup de couples qui se séparent. Donc
le divorce, c'est que ça doit être bien pour vous, le divorce, finalement.
C'est malheureusement notre fonds de commerce, le divorce, le décès. Donc, c'est vrai qu'on arrive parfois dans des familles où c'est très compliqué. Donc, il faut savoir faire preuve de beaucoup de psychologie aussi. Donc, nous, on essaye de faire nos affaires, mais tout en étant humain et en respectant les gens. Ça, c'est hyper important.
Quelle belle personne, n'est-ce pas ? Je me retourne de faire les gens qui sont dans le studio, puisque nous ne sommes pas seul. Alors vous avez une caractéristique, et c'est aussi ce qui m'a un peu amené à vous proposer de venir à ce micro, c'est que vous avez mis sur pied, ou je ne sais pas, vous allez nous expliquer d'où il vient, un procédé de visite virtuelle, c'est-à-dire qu'on ne trotte plus dans tout le secteur, comme vous dites. On vient chez vous, on coiffe des lunettes un peu spéciales, c'est ça ? Et puis on visualise ?
Alors,
expliquez-nous ça.
Je vais vous expliquer. Alors, donc, le fait que Toulouse, Toulouse soit une ville très attractive au niveau démographique, donc avec ces 13 à 15 000 personnes qui arrivent par an, tout ça, ça m'a fait réfléchir et je me suis dit comment on pourrait aider ces gens-là qui arrivent souvent de la région parisienne ou souvent très loin, qui ont très peu de temps pour choisir un bien, comment on pourrait les aider en fait ? Parce qu'il faut quand même savoir que le métier de l'immobilier n'a pas beaucoup évolué hein, depuis ces 10 dernières années, depuis ces 15 dernières années, on fait de l'immobilier aujourd'hui.
Vous le faites peut-être pareil, mais vous avez un outil qui s'appelle Internet aujourd'hui. Et j'imagine que ça a dû vous révolutionner le métier.
Depuis Internet, honnêtement, ça fait 15 ans. Ben depuis 15 ans, depuis qu'il y a eu Internet, ça n'a pas bougé. Vous êtes d'accord avec moi ? Il n'y a rien eu de plus.
Ah, bon, je suis d'accord, je ne connais pas votre métier.
Non, mais je vous explique. Voilà, donc c'est la raison pour laquelle je me suis dit, mais comment on pourrait aider ces gens-là ? Et donc, je me suis tournée vers un professionnel qui va fréquemment aux États-Unis et qui m'a dit, aux États-Unis, on fait visiter les biens les biens en réalité virtuelle interactive. C'est-à-dire qu'en fait, on peut visiter ce bien tout en se déplaçant dans la maison. Alors, pas spécialement avec des lunettes, mais simplement grâce au lien qu'on va vous envoyer. Et vous allez pouvoir donc...
On ne va pas être obligé de venir chez vous, on peut le faire de chez nous.
C'est ça. C'est tout à fait ça. Donc, en fait, si vous voulez, donc, les personnes, les clients, donc, on leur envoie un lien Internet et ça leur permet de visiter le bien et de présélectionner le bien. Bien évidemment, ça n'évitera pas la visite réelle. On ne vend pas virtuellement un bien. La personne va se déplacer, mais la personne, elle va pouvoir tout simplement faire sa présélection et ça va être un confort pour elle extraordinaire.
Donc les 4-5 photos que traditionnellement on reçoit de l'agent immobilier, qui sont bien sûr prises de façon la plus vendeuse possible, ça c'est fini.
C'est fini, exactement. Vous avez tout
compris.
Donc
là, on peut tout voir.
On peut tout voir. On peut se déplacer, on peut scanner, on peut zoomer, on peut regarder le plafond, on peut tout voir. C'est vraiment extraordinaire. Donc, ce concept, bien évidemment, ça a un coût. Moi, j'ai choisi d'investir pour ma société et d'aller de l'avant. Le numérique, pour moi, je pense que c'est quand même l'avenir. Donc, il faut essayer d'être dans son temps. Voilà. Donc, ça, c'est hyper important et de répondre à la demande. Voilà. Donc, c'est aussi très, très intéressant, la réalité virtuelle interactive, pour le propriétaire. Parce que vous vous imaginez bien que ce n'est pas marrant de vendre un bien. Est-ce que vous avez déjà vendu un bien, monsieur Lavergne ?
Non, moi, je ne vends rien. Je ne possède rien.
Donc, non, mais faire visiter son bien, ce n'est pas toujours rigolo.
Mais ce n'est pas le propriétaire qui le fait. C'est vous qui assurez la visite.
Le propriétaire, on va l'appeler, on va lui demander de ranger sa maison, de mettre son bien sous son plus beau jour. En fait, ce n'est pas marrant, les visites. Il y en a qui sont présents. Bon, c'est pas, je veux dire, quand il pleut, on salit la maison. Enfin, c'est des... Voilà, donc... En fait, le propriétaire...
Il va passer moins de monde, mais ça veut dire que c'est déjà, ça permet de sélectionner.
Complètement.
C'est une sélection que vous faites de chez vous, tranquille, avec votre conjoint ou conjointe. Vous regardez, vous écartez ou vous prenez. Et si vous prenez, vous allez voir sur place après.
C'est ça, exactement.
Donc, c'est un gain de temps important pour tout le monde.
Exactement.
Ça veut dire que pour vous aussi, vous n'êtes pas obligé d'aller sur place chaque fois. Donc, c'est une meilleure rentabilité, j'imagine.
C'est ça. Et pour les propriétaires, puisque j'ai aussi développé ce concept pour la gestion locative, et là, je suis la seule à le faire aussi.
C'est pour ça que vous êtes là, parce que vous êtes la seule à faire ça.
Non, mais en fait, si vous voulez, c'est pour expliquer effectivement ce que je fais, puisque pour l'instant, personne ne le fait. Donc, il faut le faire savoir aussi, c'est important. Au niveau de la gestion locative et de la location, donc, vous pouvez visiter, les locataires peuvent visiter les biens qui sont à la location, en allant sur mon site. Donc, ça, c'est pareil, c'est un gain de temps.
On peut voir sur votre site, pareil, dans les mêmes conditions.
Exactement.
On va aller se balader dans tous les appartements dans les mêmes conditions.
Voilà. Alors, c'est très intéressant pour plusieurs raisons. Parce que vous savez qu'en zone tendue, aujourd'hui...
Qu'est-ce que c'est une zone tendue ?
Une zone tendue, c'est une zone qui a été considérée par l'État avec une demande très importante. Donc, les locataires n'ont qu'un mois de préavis. D'accord ? Un mois de préavis, c'est très court. D'accord ? C'est une loi qui est pensée pour les locataires, mais pas pour les propriétaires. Hein, parce que le propriétaire, un mois pour relouer son bien, c'est-à-dire le remettre en publicité, refaire visiter le bien, faire l'étude de solvabilité et relouer le bien, c'est vraiment un parcours du combattant. En plus, on peut tomber sur des locataires qui refusent de vous laisser visiter le bien.
Alors, ça, ils ne peuvent pas trop quand même.
Ils ne peuvent pas trop, mais vous ne pouvez pas leur
mettre... Mais ils peuvent vous agacer, oui, c'est sûr.
On en a beaucoup qui ne nous laissent pas visiter les biens.
Donc, ça veut dire que vous êtes obligé d'y aller au préalable et de scanner. Vous scannez
alors,
tout.
Alors, ce qu'on fait, on scanne le bien entre deux départs de locataires, donc quand le bien est vide, en règle générale, pour occasionner aucune nuisance. Et ensuite, dès que le bien revient à la location, on le met immédiatement en publicité, de façon à ne pas perdre de temps. Donc, on ne dérange absolument pas le locataire en place, sauf pour la visite réelle, mais surtout, le propriétaire va être satisfait parce qu'on va pouvoir relouer son bien en un temps record. Voilà, donc ça, je trouve ça assez révolutionnaire.
Mais alors, ça nécessite un outil particulier ?
Oui, ça nécessite un scanner, c'est une caméra scan. Et c'est aussi la raison, parce que c'est un scanner, c'est la raison pour laquelle, si vous voulez, ce n'est pas déformé comme du 360 degrés, vous savez.
Oui.
Donc là, on a le scan, il va vraiment prendre tous les détails au niveau des contours, enfin des volumes. C'est vraiment très, très réaliste. Et d'ailleurs, on a énormément d'avis avis sur Google et les clients sont très
alors
satisfaits.
Alors dites-nous, on peut trouver cette petite merveille. Donnez-nous l'adresse. Vous avez un site. Donnez-nous le nom du site.
Ben, c'est Aximo.
Aximo, donc c'est votre agence.
Hein. Aximo, voilà. Aximo 31 ou Aximo. Et vous arrivez donc sur notre site et vous allez pouvoir voir dans l'onglet visite interactive, vous allez pouvoir visionner donc un bien en réalité virtuelle et vous faire une petite idée de ce nouveau concept. Ou alors voir les maisons à la location. Il n'y a pas de souci. Voilà.
Donc Aximo.
Oui, Aximo 31.
31
voilà, vous tapez sur Google Aximo, vous allez arriver immédiatement sur notre site.
Et donc, on va voir cet outil que vous êtes la seule à avoir.
Alors, il y a des agences qui le proposent, mais pour certains biens. Mais si vous voulez qu'ils le proposent.
Tandis que vous l'avez systématisé.
Nous, on l'a systématisé.
Tout ce que vous avez en portefeuille, que ce soit à la location ou à la vente. On peut le voir, on peut le visiter de chez soi, tranquillement.
Voilà, exactement. Alors, la location, c'est sur le site. La vente n'est pas sur le site. La vente, c'est sur demande. C'est-à-dire que le client nous demande donc de lui envoyer le lien et on lui envoie le lien du bien. Voilà, tout simplement.
Donc, c'est quand même effectivement, en termes de temps, en termes d'inconvénients, très, très gros avantage.
Voilà, surtout que la qualité vraiment est là. Quoi, hein, donc.
Alors, comment vous êtes venu à ce métier ? Parce que j'ai dit tout à l'heure en commençant que c'était votre deuxième vie. Vous avez commencé en vous occupant de crèches. Alors maintenant, vous vous occupez de là où crèchent les gens, mais au voilà, départ, vous étiez ça. Véritablement c'est dans les crèches. Vous êtes puéricultrice de...
Voilà, c'est ça. Je suis puéricultrice. Donc
alors,
comment on passe des
puéricultrices ? Vous avez été exercé 10 ans, j'ai vu, en préparant l'émission.
C'est ça. Donc, j'ai travaillé en maternité, j'ai travaillé en crèche. J'ai créé des crèches aussi, plusieurs crèches. Et puis, un jour, ben, j'ai eu besoin... je me suis dit, qu'est-ce que tu pourrais faire comme reconversion ? Parce que c'est vrai que s'occuper d'enfants, c'est un métier fabuleux, mais c'est un métier qui est très prenant. Et je ne me voyais pas vieillir, en fait...
Avec les enfants.
Ouais, je ne me voyais pas vieillir.
Et les clients sont de grands enfants aussi, non ?
C'est pas pareil quand même. Hein. Non, il faut.
C'est-à-dire qu'ils payent, donc c'est pas pareil. Oui. c'est l'avantage sur les enfants, effectivement.
Non, mais il faut une énergie pour s'occuper des enfants. Enfin, je pense que c'est autre chose. Voilà. Et du coup, ben j'ai une cousine donc qui a décidé d'acheter un bien et je l'ai accompagnée sur cette visite-là.
Et ça a déclenché une vocation.
Exactement.
Mais ça veut dire que vous êtes allée vous former, que vous avez fait une formation complémentaire.
Oui, j'ai fait une licence de gestion locative. Pour permettre effectivement d'avoir un diplôme et de pouvoir gérer mes structures.
Ah ouais, vous aviez quand même quelques prédestinations parce que vous lancez, je ne vais pas dire sur le tard, ce serait désobligeant, mais vous aviez déjà quand même quelques expériences et avoir 30 personnes et 5 agences aujourd'hui, puis un dynamisme que nous avons entendu avec des concepts nouveaux, etc. Vous aviez déjà en vous la graine de l'entreprise.
Ah ben oui, bon, oui, la graine, je l'avais déjà, puisque j'ai monté des crèches, j'ai été directrice de crèches, donc j'ai toujours dirigé des personnes hein, quand même. Donc ça, c'est... Voilà, après, bon, je suis aussi dans une famille, mon mari est expert en construction, enfin, mon beau-père était entrepreneur de maçonnerie, donc on est quand même dans le bâtiment aussi, hein, c'est pas...
Donc, vous êtes revenu au bercail, quoi. Après,
voilà.
Après être allé vous balader auprès des enfants.
Mais vous savez, beaucoup de gens me disent, mais le métier puéricultrice, agent immobilier, c'est vraiment différent comme métier. Mais en fait, vous avez énormément de points communs. Déjà, si vous n'êtes pas à l'écoute de l'enfant et si vous n'êtes pas à l'écoute du client, ben, vous n'allez pas y arriver.
Oh, c'est dans tous les métiers un peu pareil quand même. Hein. Il faut savoir écouter. Savoir écouter, c'est pas donné à tout le monde.
Voilà, c'est ça.
Toujours
je vous
un peu compliqué.
Je vous l'accorde. Donc, savoir écouter, c'est très important. Mettre en confiance aussi les gens, c'est très important. Parce qu'on ne peut pas mettre en confiance... Enfin, je veux dire, un parent, il faut pouvoir le mettre en confiance quand il vous laisse ce qu'il a de plus cher au monde. Et le client, quand il achète aussi la maison de sa vie...
Ça peut être ce qu'il a de plus cher au monde aussi, oui.
Donc, voilà. Donc, en fait, il y a énormément de points communs, je trouve, entre les deux. Et entre la psychologie et entre, si vous voulez, le commercial, il n'y a que l'aspect financier, en fait, mais l'approche, elle est identique, à mon avis.
Ce procédé dont vous nous avez parlé, vous avez senti que ça vous a occasionné
Ah oui.
Pour votre activité, c'est vraiment un vrai booster d'activité.
Pour la prise de mandat, c'est quelque chose qui est fabuleux parce que ben déjà, on se démarque, on propose autre chose, nos agences proposent autre chose que ce que proposent toutes les autres agences. Donc, et puis, c'est entièrement gratuit, il faut quand même le dire. Donc,
gratuit, n'exagérons rien.
Non, je ne leur fais pas payer de prestations particulières, en fait. Donc, le client qui va venir chez moi, il ne va pas payer plus parce qu'on fait de la réalité virtuelle interactive, absolument pas.
Non, mais ça, vous allez vous y retrouver au final.
Ben oui.
Et tout le monde, d'ailleurs.
Oui, oui, c'est ça, exactement.
Client, propriétaire.
J'espère. Oui. Bon, en tout cas, pour l'instant, c'est très bien perçu par les clients.
Alors, 5 agences, 30 personnes, la réalité virtuelle, et à côté, vous avez le temps de vivre, vous avez le temps de...
À côté,
vous occupez d'autres choses
Je voyage quand même un petit peu. J'essaye de me reposer de temps en temps quand même, parce qu'il faut se ressourcer. Ça
je sais que vous pédalez, non pas dans la choucroute, mais dans une piscine, ce qui est une bonne chose.
Voilà, un petit peu. J'essaye un peu de me décontracter.
C'est possible aujourd'hui d'avoir une vie vraiment pleine à côté d'un boulot de chef d'entreprise?
C'est possible à condition d'avoir une vie à côté très équilibrée, mais voilà, ça c'est là, voilà, c'est ce que je pense.
Vous arrivez à avoir un équilibre vie privée, vie professionnelle?
Oui, parce que bon, voilà, j'ai un mari avec qui je m'entends très bien depuis, ça fait déjà plus de 30 ans, vous voyez. Donc,
il va falloir penser à changer.
On est des vieux mariés, ben non, parce que ça me convient donc.
Vous avez dit que les agents immobiliers font notamment leur richesse sur les divorces. Il va falloir penser à engraisser les confrères un peu.
Et voilà. Mais disons que voilà, je me ressource auprès de ma famille, auprès de mes amis aussi, de mon groupe d'amis, et puis aussi à travers ces voyages. Voilà.
C'est plus dur aujourd'hui de travailler, beaucoup plus de contraintes administratives, sociales, fiscales qu'autrefois ou non?
Le métier a complètement changé, complètement évolué, comme je vous disais, avec toutes ces réglementations, on est sous la pression permanente, hein, mais vraiment. Hein. Donc, puis après, il faut être en permanence, si vous voulez.
La concurrence est plus aiguë, plus acharnée.
Exactement.
Il y a quand même un gros marché, vous l'avez dit en commençant, sur
Toulouse.
Oui,
mais aujourd'hui, en fait, on ne fait, quand on est chef d'entreprise, moi, je ne fais que de la stratégie, hein, c'est tout. Hein, j'essaie en permanence de m'adapter à la demande du marché. Il faut être vu partout, sur les réseaux sociaux. Enfin, moi, je suis partenaire de nombreux clubs sportifs de la région aussi, parce que bon, je trouve que c'est important de les soutenir.
Il faut se faire connaître. Comme disent mes amis catalans, il faut montrer sa gueule. C'est un
minimum,
peu ça, oui.
Un minimum.
Il faut être présent sur le terrain. Alors, vous avez aussi le temps, vous cuisinez.
Ah oui, j'adore cuisiner.
Alors, je ne sais pas si vous cuisinez bien, je n'ai pas encore été invité, mais je ne désespère pas. Mais vous cuisinez, ça c'est une passion, c'est quoi c'est,
Oui, c'est une passion qui m'a été transmise par ma mère.
Donc, on peut être executive woman et à côté avoir une vie parfaitement normale.
Bien sûr.
Et alors, est-ce que vous avez, qui annonce la dernière séquence, c'est la séquence littéraire. Est-ce que vous avez le temps de lire?
Je ne lis pas beaucoup, à vrai dire. Parce qu'en fait, je suis toujours sur Internet, en train de regarder l'actualité. Enfin, je lis, mais je lis beaucoup sur Internet, en fait. Je lis des romans quand je suis en vacances, à vrai dire. Mais après, en temps normal, c'est compliqué. Mes journées sont quand même très chargées.
Mais comme je vous l'ai demandé, vous avez fait le choix d'un livre et vous avez choisi un livre qui ne va pas étonner ce qui nous écoute depuis le début, puisque c'est François Zolto qui l'a écrit, La cause des enfants.
Voilà.
C'est un clin d'œil à votre ancien métier?
Tout à fait. Françoise Zolto, comme tout le monde le sait, c'est une pédiatre psychanalyste qui a œuvré toute sa vie à la cause de l'enfance, hein, pour les enfants. Ce livre, en fait, il m'a marqué dans ma vie pour la simple et bonne raison qu'il a eu un impact sur la société et il a changé vraiment le regard de l'adulte par rapport à l'enfant. C'est un livre qui a donné la parole, en fait, Françoise Zolto a permis de donner la parole à l'enfant qui ne l'avait pas jusqu'à présent. Ça a été, et pour moi, c'est vraiment, cette femme, c'est quelqu'un d'extraordinaire. Après, quoi qu'on en dise, c'est une femme qui a marqué son temps et qui a...
Et ce qu'elle a écrit et pensé est toujours d'actualité?
Complètement. Alors,
donc, pour un parent, la cause des enfants doit être lue par tous les parents?
Alors, aujourd'hui, grâce à Françoise Dolto, justement, les parents ont évolué, ont changé. Ça a permis de changer les mentalités et le rapport que l'on a à l'enfant. Mais c'est un clin d'œil à tout ce qui a pu se faire durant des siècles et des siècles, en fait. Hein, l'enfant, Françoise Dolto, elle a vraiment révolutionné la prise de conscience qu'un enfant, c'était un être à qui...
Elle est reconnue chez les professionnels tels que vous avez été.
Oui. Complètement.
Pour vous, c'est le pape de la...
Oui, tout à fait.
C'est un peu ça. Donc, on va rappeler le titre, La cause des enfants, de Françoise Dolto. Alors, moi, je vais vous parler de notre livre. En réalité, ce n'est pas moi, parce que j'ai compris que si on voulait s'enrichir, il fallait faire travailler les autres. Et je fais travailler quelqu'un qui est extrêmement compétent. C'est Nathalie Fontaine, qui est libraire et qui tient, et je vous conseille d'aller y faire un tour, la librairie des Tours à Naïoux. On va me dire, c'est pas tout près, non, Naïoux, on y est en un quart d'heure. Et vous verrez une belle librairie et vous verrez surtout une belle professionnelle. Alors, elle nous recommande un livre. Voilà, j'ai ces mots sous les yeux, je vais vous les lire. De Pierre Allary, Mon traître, et qui est paru chez une maison d'édition qui s'appelle Rue de Sèvres. Alors, Pierre Allary est dessinateur. Le voilà désormais scénariste de talent avec cette adaptation fine du roman de Georges Chalandon. Je ne sais pas si vous connaissez Georges Chalandon, mais si vous lisez Le Canard enchaîné, ce qui est ma lecture du mercredi, il nous fait de très belles critiques, notamment sur tout ce qui est les programmes télévision. Il y a beaucoup à dire. Donc, un roman de Georges Chalandon qui s'appelle Mon traître est paru aussi rue de Sèvres. Alors, l'auteur du roman signe d'ailleurs la préface de la bande dessinée, nous dit Nathalie, et dit la proximité immédiate, et je cite, sans le lui avouer, j'ai trouvé qu'il avait une gueule de là-bas, un rien de pub irlandais, le regard malin qui rassure. À la première minute, j'ai envie d'une bière avec lui. C'est ce que dit Georges Chalandon de son dessinateur. Pierre Allary offre donc son trait sûr et des couleurs élégantes, du vert amande à l'ocre, pour illustrer ce que Georges Chalandon évoque dans son domaine. Ah, pardon, j'ai glissé. Ah, c'est l'informatique, il ne faut jamais rien toucher. Évoque dans ce roman largement autobiographique et qui a été déjà publié en 2008. Sur la foi d'un proverbe irlandais qui est le suivant, « Si tu jettes une pierre à travers la vitre d'un pub, tu blesses deux poètes et trois musiciens. » C'est quand même sympathique. Hein. Antoine, luthier parisien, se met en route pour les Vertes Collines. Dans un pub de Belfast, c'est la rencontre décisive avec Tyrone Méhan, je ne sais pas si je prononce bien, j'en suis pas sûr, figure essentielle de l'IRA. Un lien filial s'instaure très vite, la bande dessinée redonne à voir les émeutes, les grèves de la faim, Bobby Sands, vous en souvenez peut-être, et les mouvements de foule. Antoine embrasse la cause, se découvre une patrie, mais Tyrone Méhan est un agent britannique qui aurait trahi les siens pendant 25 ans, à l'annonce de la trahison, le vertige est total. Donc voilà un livre de Georges Chalandon, dessiné, illustré par Pierre Allary, Mon traître, rue de Sèvres, et ça a l'air tout à fait passionnant. Si Nathalie le recommande, vous pouvez l'acheter. On dirait presque satisfait ou remboursé, mais je suis sûr que vous serez satisfait. Et puis une annonce, c'est celle du 3e Salon du Polar et de l'Aventure qui aura lieu très bientôt, précisément cette fin de semaine, les 8, 9 et 10 juin sur le Lydia, au Barcarès. Donc vous y verrez des auteurs, romans, BD, dédicaces. Réservez la date et venez les voir, allez les voir, et puis je dirais même venez nous voir, puisque j'y serai pour animer les tables rondes et pour dédicacer mes romans. Nous sommes presque arrivés au bout de cette émission, donc on va répéter Aximo 31, et allez voir un peu cette réalité virtuelle, hein, puisque vous êtes la première à la proposer. Mais c'est vrai que pour avoir fait quelques recherches immobilières, j'avoue que c'est extrêmement lassant de courir les rendez-vous, de chercher, de trouver une place pour se garer, d'avoir des gens plus ou moins aimables qui vous font visiter. Des fois à la chaîne, en vous houspillant un peu, vite, vite, il y en a un autre derrière, vous prenez ou vous laissez. Je pense que là, c'est peut-être un procédé un peu plus humain et qui permet de regarder... de choisir son futur lieu de vie avec beaucoup plus de sérénité, j'imagine.
Voilà, hein, tout à fait. Beaucoup plus de facilité, c'est une aide précieuse, je pense. Voilà.
Bon, mais écoutez,
et je l'espère.
On ira voir, on répète quand même l'adresse, c'est Aximo.
Voilà, Aximo, Fonce-Grive. Alors, vous pouvez aller partout, hein, dans toutes les agences, bien évidemment, vous l'aurez proposé. Mais bon, vous allez simplement sur mon site aussi et vous aurez tous les
renseignements. Nous irons, on va voir ce procédé qui me paraît mériter toute notre attention. Laurence Cristante, merci d'être venue au micro de Cap et Cap, d'Esprit Occitanie. C'était une émission de Jacques Lavergne. Avec à la technique, nous avions Jean-Louis Arzac, comme d'habitude, et derrière, en soutien, Dorian, qui va rester avec nous tout le mois. La semaine prochaine, je pense que je vous ramènerai beaucoup de sons du Lydia et beaucoup d'interviews de divers auteurs. Donc on revivra un peu ensemble ce salon. Et donc nous reparlerons de livres et de BD très certainement. Vous pourrez retrouver cette émission ainsi que toutes les autres sur la page Facebook de l'émission Esprit Occitanie, sur le site de la station. Et puis vous aurez le podcast à disposition dans quelques heures. Nous rediffuserons cette émission demain, mardi, de 11 à 12. Et puis le week-end prochain, qu'on se le dise. Bonne semaine à toutes et à tous.
Merci.
Adieu.